Un matin, Jules Bonnon, l'évadé de Haute-Boulogne, avait appris la mort de son ami Loiseau et était revenu sur l'île pour se venger. Il n'avait pas pu vivre 3 ans caché dans une grotte. Il avait réussi à prendre le large et était revenu le temps de son forfait. C'était la seule explication. Mieux, les sœurs dénoncent cette teigne à la police, mais personne ne fait le lien. Qui l'appelait la teigne, à part quelques colons et 3 gardiens du 2e quartier? 3 ans, c'est long, 3 ans. Et puis quel échec, quel aveu! La gendarmerie, la justice, l'administration pénitentiaire ont juré à tout le monde que les évadés avaient été repris jusqu'au dernier, et voilà que non! C'était un mensonge! La teigne, un caïd, le pire de tous, avait échappé aux recherches et on nous l'avait caché. Il avait écumé la région en toute impunité et était revenu commettre un crime sans que personne l'en empêche. Impensable. Les sœurs auront mal compris. D'ailleurs, la pluie a vite arrêté l'incendie. Les dégâts sont importants, mais pas considérables. La municipalité devrait être généreuse pour ces femmes qui ont bien mérité, et leurs parents avant elles, des agriculteurs, travailleurs et patriotes. Allons, cette histoire de teigne n'était qu'un malentendu. Un coup de téléphone au journal local, une visite de courtoisie à son rédacteur en chef et quelques réclames payantes dans ses pages régionales devraient vite gommer ce fait divers. Et d'ailleurs, le fameux terrain agricole appartenant au vieux Roland que les sœurs convoitaient depuis des années ne vient-il pas justement d'être préempté par la commune? Et ne sont-elles pas les mieux placées pour l'acquérir?
Tout ça, c'est politique et compagnie,
avait l'habitude de dire la vieille Desrien. Comme ça, elle le répétera une fois encore. Et puis, l'histoire s'arrêtera là. Chapitre 20. La traversée. 3 mai 1937, 7h du matin. Pancho m'a ouvert la porte sans un mot. Comme un ami. Ronan m'avait dit un jour,
« L'ami, c'est celui qui t'ouvre sa porte au milieu de la nuit sans te poser de questions. »
Le Basque était comme ça. Je n'étais ni de sa terre ni de sa mère, mais il avait reconnu en moi un copain de tire-bouchon. Je passais souvent chez lui lorsque nous étions au port, pour un verre de cidre, de vin, une halte ou une question. Assis à cette table, je lui avais parlé de ma mère enfuie, mon père absent, les terreurs de l'enfance, les violences de la colonie. J'avais imité pour lui les matons, un à un. Le goff et son bras manquant, poupée sans ses cheveux, la morgue du directeur. J'avais mimé le supplice de la planche, nous, pieds nus, claudiquant sur la piste du grand bal jusqu'à en crever. Je lui avais avoué l'incendie de Bruté. 10 fois, il m'avait fait raconter la révolte, notre grande évasion, mais de lui, il ne me disait pas grand-chose. Il y a 10 ans, son bateau avait fait naufrage dans le golfe de Gascogne. Des 8 pêcheurs à bord, lui seul avait survécu, secouru par une goélette de palais. Pendant quelques semaines, un peu comme moi, il s'était demandé comment rentrer au pays, et puis il avait rencontré Ronan. Le patron l'avait pris à son bord, et il s'y est senti chez lui. Jamais je n'avais frappé à la porte de Pancho aussitôt. Il m'a vu. S'est effacé. Un café ? J'ai dit oui, en tombant sur une chaise. Il a remarqué mon sac.
Tu pars aussi ?
Oui. 2 mots, un hochement de tête.
Le patron le sait ?
Il le sait, oui. Le Basque nous a servi 2 tasses brûlantes.
S'il le sait, c'est bien.
Il s'est assis en face de moi. Il a versé 2 gouttes de gnôl dans nos gobelets. Et puis il a regardé sa chambre. Les 10 aines de photos sur la porte, la carte de sa province, même le grand blason coloré de la Guipuscoa, 2 géants armés de gourdins qui protègent 3 ifs, avaient été retirés avec soin. Il avait lessivé les murs, le sol, lavé les carreaux de la petite fenêtre.